Radio Cité Genève, Viviane De Witt, les assiettes d'or.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2. Nous sommes dans les assiettes d'or.
Nous sommes en France, à Vieux-Ferrette, dans la belle Alsace parsemée de maisons à colombages. Dans cette campagne verdoyante et profonde, nous sommes venus à la rencontre d'un personnage, Bernard Charles Anthony. Il est éleveur de fromage et il tient à cette appellation. Il a commencé il y a 40 ans avec une épicerie ambulante sur les marchés des villages d'Alsace. Aujourd'hui, il expédie ses fromages à tous les chefs de la planète, dans le monde entier, les plus grandes tables. Un magnifique exemple de réussite. On l'écoute égrener ses souvenirs.
Bonjour Bernard.
Bonjour Viviane.
C'est formidable d'être ici. D'abord, le pays est ravissant. Toutes ces petites maisons avec ces colombages, cette herbe bien verte. Et puis, alors ici, une maison formidable. On rentre, des poutres apparentes, des jolis meubles provinciaux. Et puis ici, nous sommes installés dans la cave et autour de nous, que des grands crus. Magnifique.
Merci, merci d'être venu. Vous êtes déplacé à Vieux-Ferrette.
Eh bien, ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Expliquez d'ailleurs pour nos auditeurs où vous êtes, où nous sommes.
Donc, nous sommes à Vieux-Ferrette, c'est environ 20 km de Bâle, 20 km de Porrentruy. On est dans au fin fond du Sundgau. Et à côté de Vieux-Ferrette, il y a la ville de Ferrette, là, qui est donc une ville avec 600 habitants.
Alors, nous sommes ici, donc, à la rencontre de Bernard Charles Anthony, qui est éleveur de fromage et qui est l'un des, je dirais, des artisans majeurs de la spécialité. Parce que tous les grands cuisiniers de France et de Navarre et aussi à l'étranger s'adressent à lui pour avoir de grands fromages et de bons fromages. Alors toute cette aventure, parce que c'est une immense aventure que d'être au sommet de sa profession, toute cette aventure, ça a commencé comment, Bernard ?
Avec une rencontre, bien sûr. Avec la rencontre avec Pierre Antrouet, mon maître. J'ai eu la chance de le connaître grâce à François Schmitlin. Et Pierre a dit à mon épouse et à moi-même, vous n'avez aucun avenir avec votre épicerie.
Parce que... Alors attendez, on va partir depuis le début pour nos auditeurs.
Oui, d'accord.
Donc vous
oui.
aviez une petite épicerie.
Dans le temps, donc mes études...
On est en quelle année là ? On est en quelle année ?
Donc après mes j'ai fait quand même des études jusqu'à 14 ans.
Oui.
Certificat d'études quand même, maintenant ça n'existe plus, dans le temps c'était quelque chose, un grand diplôme.
Oui.
Ensuite j'ai travaillé à l'usine, pour une usine suisse, la maison Sola, usine d'orfèvrerie quand même déjà en ce temps-là.
Oui.
Ensuite j'ai fait mes 2 ans de service militaire en Algérie, quand on est jeune comme ça, on faisait encore 2 ans d'Algérie. Quand je suis rentré, je suis allé travailler dans une épicerie, où je travaillais donc du matin au soir, du soir au matin, mais je voulais le faire, c'est pas mon patron qui me forçait. Et en 71, il m'a dit, je ne veux plus continuer, je veux faire quelque chose d'autre, je te vends mon commerce. Et je lui ai dit, d'abord il faut que je demande mes parents ce qu'ils en pensent. Mon père et ma mère ont dit, ça n'existe donc pas que tu achètes une maison à l'étranger, c'est comme le village à côté. Hein.
L'étranger, donc, c'était l'étranger,
oui,
le village
oui,
à côté,
oui.
C'est mignon.
Alors ils ont dit, il faut que tu restes là dans cette maison. C'est ta maison, c'est la maison que ton grand-père a construite, c'est la maison que moi j'ai transformée, et il faut que tu restes là. Donc, d'accord, je peux rester là, mais on a une grange, on a une étable, une écurie, il faut tout transformer, il faut des sous, et des sous on n'en a pas. Et mon père, il a dit, mais écoute, tu vas à la banque, tu verras bien, le banquier peut t'emprunter, on peut faire une hypothèque sur la maison. Je suis allé voir le banquier m'a dit, yado Bernard, on ne peut pas te prêter d'argent, vous n'en avez pas ? La maison que vous avez ne vaut pas grand-chose. Les terres que vous avez, c'est des terres cultivables, mais ça ne vaut pas grand-chose non plus. On ne peut pas te prêter un tout petit peu, mais ça ne va pas. Donc, je fais quoi ? Il faut que tu trouves un garant hein, qui est d'accord de signer pour toi, qui payera au cas où toi, tu ne peux pas payer. Donc, il y a de haut. Ça, c'est difficile, parce que toute ma famille est au même niveau que moi. Et il a dit, mais écoute, je regrette, ce n'est pas contre toi, c'est... Voilà. C'est comme ça. Alors je me suis
c'était
dit, voilà.
C'était décevant, hein, ça, c'était
oui,
un peu dur.
Oui, c'est vrai qu'on était les gens...
Ça très... cassait un peu le rêve.
Oui, on était très très pauvres, c'est vrai, c'était... On était les paysans.
Combien d'enfants, Bernard ?
Seul, j'étais fils unique.
Tout seul, oui.
D'accord. Donc j'étais...
Mes
parents étaient pauvres, c'était pas leur faute, c'était comme ça. Mon père a travaillé comme paysan avec 2 vaches, bien sûr, avec 2 bœufs, et quelques chèvres aussi, pour nous alimenter aussi. Ensuite, il a travaillé dans une carrière, comme casseur de pierre. Ensuite, comme bûcheron, comme paysan, comme travailler, il allait traire les vaches chez les gens le matin pour gagner un peu d'argent aussi.
Donc il se louait un peu à droite, à gauche.
Oui. Et ma mère donc faisait à la maison ce qu'elle pouvait faire. Elle était aussi tombée malade quand j'avais 14 ans aussi. Elle est restée 2 ans dans un sanatorium. Donc c'était pas toujours évident, mais c'était comme ça. Il fallait s'assumer. J'avais une marraine exceptionnelle à Mulhouse. Je ne savais pas pourquoi que toute la semaine elle mangeait des spaghettis et de la sauce tomate. Elle a toujours dit, oh, mais tu sais, j'aime beaucoup ça. Mais seulement après de longues, longues années, j'ai vu que le dimanche, c'était toujours de la viande, des pommes de terre, c'était tout. Et ensuite, le reste, elle nous donnait avec. C'était pour faire des économies toute la semaine, pour pouvoir donner la viande avec. Nous, à cet âge-là, on ne le comprenait pas, quoi. Dans le temps, les gens ne parlaient pas.
Mais ils c'est faisaient... gentil quand même de se priver toute la semaine pour pouvoir donner de la viande à l'enfant.
On ne se rendait même pas compte, quoi. Oui. On ne se rendait pas compte, mais c'était.
Bien sûr.
Elle n'a jamais osé. Elle a dit non, je mange ça parce que j'aime ça.
Mmh. C'est une fierté.
Oui, elle n'osait pas dire que je fais ça pour vous. Oui. C'était comme
Alors,
ça. Hein.
Bernard, donc là, on est dans quelle année à peu près quand vous nous racontez tout ça?
Dans les années 60. Après l'école de 43, dans les années 60.
60.
Dans les années 60. Oui, dans les années 60.
Donc vous avez le certificat d'études.
Oui, quand même, oui.
Ouais. Et puis vous imaginez ouvrir un commerce alors.
Oui.
Et le banquier,
non.
Il n'est pas au rendez-vous. Alors qu'est-ce que vous faites?
Alors je suis allé voir un industriel laitier. Je lui ai dit, si vous voulez que je vende votre fromage blanc, votre lait, votre crème, vos yaourts, il faut que vous fassiez en sorte que vous me prêtiez de l'argent. Il a dit, pourquoi pas? Longtemps après, il m'a dit, tu sais, quand tu es venu comme ça, je me suis dit, ou bien il a un spleen, il n'est pas très net, ou il est très honnête. Il s'est dit que lui, il a des sous, donc automatiquement, il peut m'en prêter. Et lui, il a donc pris cette solution, que je suis honnête, je me suis dit que lui, il a des sous, et qu'il peut m'en prêter, tout simplement. Et il m'a donc prêté l'argent pour que je puisse m'acheter un camion magasin où je faisais les tournées dans tous les villages.
Alors le magasin, il était près d'ici, Bernard?
C'était un camion magasin.
Un camion magasin, d'accord.
Avec des roues.
Un camion avec des roues, alors c'était un magasin ambulant.
Oui. Et donc je faisais tourner dans tous les villages, avec de l'épicerie, de la mercerie, des chaussures, des soutiens-gorge, des légumes, des sous-vêtements pour dames, des belles chemises de nuit.
Mais c'était un vrai supermarché, le camion.
Oui. Ah oui, du café, du camiplore chocolat dans les années 70 quand même.
Oui.
Du chocolat suisse dans les années 70. Les petits biscuits Campli, j'avais déjà un peu le goût du beau et du bon. Et donc, je faisais les tournées de 8h du matin jusqu'à minuit. Et quand je rentrais à minuit, c'était mes parents, ma tante et ma marraine qui cherchaient le camion jusqu'à 3-4 heures du matin. Et moi, je repartais le lendemain matin de nouveau en tournée. François Schmitlin, donc celui-là qui m'a prêté les sous, une fois venu me voir, il m'a dit, écoute, j'ai vu tes parents, ils n'ont pas du tout l'air en forme, ils sont fatigués. Sorry. Ah bon? Ma maman m'a rien dit. Elle me fait à manger tous les soirs et elle dit, oh, là, mange encore, je t'ai fait à manger parce qu'après on va chercher le camion. Il dit, mais oui, mais ils ne le disent pas. Parce que c'est normal, ils n'osent pas te le dire, qu'ils sont fatigués, parce qu'ils voient très bien que tu travailles beaucoup, qu'il y a beaucoup de dettes, et que c'est eux qui le font. Donc automatiquement, ça ne coûte pas de salaire. Donc tu peux plus rapidement payer tes dettes. Il a dit, mais écoute, est-ce que tu n'as pas une copine ou quelque chose? Donc écoute, une copine, c'est plus difficile, parce que quand je leur dis mes horaires...
Oui, il n'y a pas beaucoup de temps pour les voir et faire la cour.
J'avais uniquement le temps le dimanche après-midi à partir de 14 jusqu'à 18 heures.
Oui, c'était court, ça.
C'était court, oui. Alors,
il fallait que la copine soit compréhensible.
Oui, et je n'en ai pas trouvé qu'elle soit compréhensible.
Ah.
Donc François Schmitlin m'a dit, écoute, je te présente quelqu'un, elle n'est pas difficile, éventuellement tu pourrais lui convenir. Il m'a donc présenté ma future épouse en 77. On n'était pas très jeunes tous les deux. Janine voulait des enfants, moi aussi. Donc ça a tout de suite marché. En 79, Jean-François est venu au monde.
C'est bien.
30 ans. Et en 79, donc, j'ai eu le grand privilège, grâce toujours à François Schmitlin, que j'ai connu mon maître Pierre Antrouet. Pierre Antrouet de Paris.
Le grand maître fromager Antrouet, qui est très connu, bien sûr.
Oui. Qui s'est pris d'affection pour moi aussi. Il n'avait pas de fils. Et il a vu que je ne connaissais rien du tout au fromage. Que je sortais de la campagne, que je rêvais beaucoup, que je pensais que mon épicerie allait me sauver. Mais ils m'ont dit, aucun avenir avec ton épicerie. Il y aura une fois les supermarchés, les grandes surfaces, les grands magasins. François l'avait déjà vu. Et il m'a donc dit, il faut que tu deviennes fromager. Et Pierre a dit, mais c'est tout simple, je t'envoie les fromages de Paris, tu vas faire les marchés. Je lui ai dit, d'accord, si vous le dites. Donc j'ai commencé à faire les marchés d'Altkirch grâce à notre député Jean-Luc Reitzer. J'ai fait le marché à Huningue, à côté de Bâle. Et à Bâle, bien sûr, j'ai eu la chance de connaître des journalistes, Sten, Minou, Sipek, M. Sipek de Photozeit. Et ils m'ont rencontré grâce à d'autres personnes. Et eux, ils ont écrit les articles qu'il fallait pour que la clientèle suisse et allemande vienne. Et d'Altkirch, donc, il y a eu les clients d'Altkirch qui sont venus. Et comme ça, tout doucement, de 79 à 83, on a laissé tomber toute notre épicerie, mercerie, chaussures, soutien-gorge aussi, malheureusement. Hein. Mais il y avait une dame là, à la Schmuckmesse, j'ai parlé que je vendais. Ah bon, d'accord, et j'ai dit, madame, vous avez un 95 bonnet B. Ah bon, d'accord. Oui, c'est ça. Ah, j'ai pas perdu.
Quel œil.
Et que l'œil était très développé. Tout était bien mis en valeur, quoi. Donc, on pouvait bien voir.
Bernard, on va écouter un petit peu de musique avant de repartir pour la suite.
Thank you.
Nous sommes sur Radio Cité Genève 92.2. Nous sommes dans les assiettes d'or avec Bernard Charles Anthony, éleveur de fromage en Alsace. Alors Bernard, on vous a laissé tout à l'heure, au moment où vous abandonniez un commerce un peu diversifié, on va dire comme ça, puisque dans le camion ambulant, il y avait même de soutien-gorge, il y avait tout, il y avait... Et aussi du fromage.
Et du fromage, mais du fromage ordinaire, du fromage pasteurisé.
Oui. Ah oui, alors il faut donner la différence pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément des spécialistes. Donc un fromage pasteurisé, qu'est-ce que c'est, Bernard ?
Donc comme j'ai dit au Parlement européen, fromage pasteurisé, c'est comme un homme castré.
Voilà une belle affaire. Aïe, aïe, aïe. Alors
il faut dire un fromage au lait cru, c'est un fromage qu'ils ont fait par des artisans fromagers dans toute l'Europe. En Suisse, il y a des choses magnifiques. En France, il y a des choses magnifiques. En Italie, il y a des choses magnifiques. C'est des fromages qu'ils ont fait par des artisans, des gens qui font leur métier avec amour et passion. Parce que les fromages pasteurisés qu'il faut aussi, il y a la place pour les deux chevaux, pour les Rolls-Royce, pour les Bentley, pour tout, pour les vélos. Mais il y a chaque chose à son temps.
Bernard, vous voulez dire qu'il peut y avoir parallèlement des vitesses différentes,
oui,
des qualités différentes, des prix différents aussi.
Pour des journées différentes.
Et puis également, effectivement, des modes de production différents, certains plus longs que d'autres et d'autres plus courts, des processus plus courts. Bon.
Il faut les deux entièrement.
Il faut tout, bien sûr.
Oui.
Alors attendez, on revient à votre camion ambulant que vous avez abandonné, on revient à ce monsieur qui vous a fait connaître, monsieur Androuet, donc le grand maître des fromages de l'époque. Mmh. Alors on est en quelle année là, à peu près ?
Là on est entre 79-83, 79 Pierre, et c'est eux qui m'ont dit donc d'abandonner tout ça, donc on a fait ça, il fallait le faire lentement parce que j'avais toute la clientèle, donc l'ancienne clientèle que j'aimais beaucoup, c'est tous ces gens d'un certain âge aussi qui m'attendaient toutes les semaines, parce qu'ils aimaient beaucoup mes produits, ils aimaient aussi que je les serve devant la maison, bien sûr.
Mais oui, parce que le camion s'arrêtait devant chez eux.
Mais oui, devant chez eux.
C'est pratique.
J'avais droit au café, au schnapps, à toutes ces choses-là, à toute la gentillesse.
À la fin de la tournée, ça ne devait pas être mal. Hein.
Non, je devais rentrer, avoir ça va. Comme le facteur.
Il n'y avait pas encore les contrôles sur les routes.
Il n'y avait aucun contrôle, non. Il n'y avait aucun contrôle. Et donc, de 83 à 86, uniquement fromage pasteurisé et fromage au lait cru. Et en 86, avec mon épouse, on a donc décidé de faire le grand pas, uniquement fromage au lait cru. C'était un pari, mais on avait le soutien de nos clients, suisses, allemands, français, et surtout le soutien de Pierre Antrouet, le soutien des journalistes aussi, qui m'ont toujours suivi, qui ont toujours dit c'est un peu hein, qui rêve un peu, mais dans le rêve, il y a des rêves qui se réalisent. Et quand on voit les produits qu'il a, c'est pas seulement le rêve, c'est aussi le produit.
Bien sûr.
Et donc en 86, le grand pas. Et
alors le grand pas, ça a consisté en quoi ? Donc ça a été quitter le camion. Oui.
Quitter le camion, uniquement faire les marchés.
Oui.
Et la vente ici.
Donc ici, c'est dans la maison familiale, dans l'ancienne écurie. Ici, c'est une ancienne écurie ?
Là, c'est en dessous du verger.
Oui.
En dessous du verger.
Parce que là, nous sommes dans cette très belle cave, nous l'avons dit tout à l'heure pour commencer, entourée de bouteilles prestigieuses. L'endroit est magique.
Oui, c'est en dessous du verger de mon grand-père, parce que c'était un grand amoureux du schnapps. Il buvait tous les matins deux schnapps pour se mettre en forme. Pour ça, il fallait un verger avec beaucoup de...
De prunes.
Alors, tous les matins, là, au-dessus de son verger, j'ai construit la cave à vin.
À quel âge est mort votre grand-père, Bernard ?
79 ans. Jamais malade.
Le schnapps conserve.
Ah oui. Le schnapps conserve.
Un petit peu de publicité. Ce qu'on veut simplement dire, c'est qu'au fond, les bonnes choses qui font plaisir, peut-être que ça conserve beaucoup, longtemps.
Oui. Certainement, oui, je pense aussi.
Alors, revenons donc à notre affaire. Vous voilà installé ici, avec ce que vous appelez le grand saut, c'est-à-dire en fait une nouvelle vie, où tout à coup, vous allez vous spécialiser. Alors,
oui, me spécialiser, oui. Donc, j'ai aussi la chance d'avoir une épouse d'exception, bien sûr aussi, qui était d'accord de faire ce pas, mais elle a toujours gardé son métier. Elle était éducatrice de formation. Et elle a toujours dit, tu sais, avec toi, on ne sait jamais, il vaut mieux que je garde mon métier pour être sûr que tous les mois, il y a le salaire qui rentre.
Mais au fond, est-ce que, vous savez, on dit toujours, Bernard, que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Alors, est-ce que vous adhérez ? Vous adhérez
à ça ? Entièrement, oui. J'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait si je n'avais pas eu une femme d'exception, bien sûr. Elle m'a quitté, malheureusement, en année 2000. La maladie, ça, c'est comme ça, malheureusement. Mais bien sûr, de là où elle est, elle nous surveille pour voir si on fait bien. Et pour le moment, donc, on le gère avec le fils et quatre employés.
C'est on a une pensée affaire. Pour elle, Bernard. Oui. On a une pensée pour elle. Je suis sûr qu'elle veille sur vous.
Elle est à l'entrée de la maison toujours. Hein.
Bien sûr, elle est là. Elle est certainement autour de vous. Et
elle regarde si on fait bien.
Elle regarde si on fait bien, c'est joli ça.
C'est une perfectionniste. Oh purée, ce n'est pas toujours un cadeau. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Non, mais c'est normal. Avec un homme artiste, ce n'est pas toujours évident non plus. Hein.
Vous vous considérez comme un artiste, vous êtes un artiste.
Oui, je pense, oui, aussi avec des produits, aussi, c'était pas toujours évident, mais j'ai toujours cru, elle aussi d'ailleurs aussi, elle aimait beaucoup ce qu'elle faisait, elle est restée éducatrice pour des raisons pécuniaires, bien sûr, parce qu'elle avait elle a aussi pu s'arranger de travailler uniquement 2 jours par semaine, donc du matin à 6h jusqu'à minuit, chaque jour, ça lui permettait
ça,
de travailler.
Ça, c'est des grandes journées.
Oui, donc ça lui permettait de travailler encore 5 jours ici, complet aussi.
Ça, il faut que les auditeurs écoutent, particulièrement les jeunes qui ont toujours l'impression que tout se fait tout seul. Belles constructions, elles se sont faites parce qu'il y a eu des gens qui ont donné leur temps, qui ont donné leur cœur et puis qui n'ont pas hésité à relever les manches.
Hein. Oui, je vois bien Jean-François, il dit aussi, c'est vrai que le dimanche,
comme
je disais...
Donc Jean-François, c'est votre fils.
Oui, oui. Voilà. Donc lui aussi, il disait des fois le dimanche, écoute, on pourrait aller jouer, on pourrait aller se promener, il disait, Jean-François, on n'a pas le temps. Il faut qu'on aille travailler, quoi. C'est pour ça que lui, il prend le temps, il travaille tous les jours, de 6h à minuit, quand les clients sont partis ce matin à 2h.
Il faut que nos auditeurs écoutent ça. Hein. Il travaille tous les jours de 6h à minuit, et nous sommes en France, dans un pays où on célèbre les 35 heures, mais où les gens qui réussissent, évidemment, ne font pas 35 heures.
Non, nos clients sont partis à 2h ce matin, il est reparti au marché à 6h ce matin, mais il dit toujours, mon fils, j'aurai un peu plus le temps que toi tu as eu pour moi. Et je trouve ça tout à fait normal.
Je veux dire, chaque génération apporte sa pierre et puis permet d'évoluer un petit peu.
Oui.
Alors Bernard, revenons à vous. Donc, à cette époque, vous commencez à être jeune patron. Vous êtes chez vous. Vous avez la bienveillance de M. Androuet, bien sûr. L'accord de votre épouse, mais il faut quand même vivre tous les jours. Alors, ça se passe comment dans la vie de tous les jours?
Mais c'était très vite le succès.
C'est vrai?
Oui, grâce aux journalistes qui ont écrit un miracle à Vieux Ferret, il faut aller à Sibek. Monsieur Sibek, il a écrit il faut, Timoussen à Ferret, il faut aller à Ferret. Gilles Butlowski, le chroniqueur, il m'a découvert aussi au hasard une fois d'un marché. Il m'a dit voilà, il faut aller à Vieux Ferret, vous allez voir. Il a écrit dans les dernières nouvelles. Il y a eu aussi les gens, aussi le bouche à bouche, bien sûr aussi. Hein, les gens qui ont dit, voilà, écoute, j'ai trouvé quelqu'un qui est bien. On était aussi une petite affaire. Donc, et on allait au marché tous les jours, donc tous les matins, de 6h à 2h de l'après-midi. Et 2h, on préparait les fromages. On avait aussi la vente ici. C'était des journées bien remplies, bien sûr.
Sûrement.
Et en 95, donc... en 90, donc j'ai aussi demandé les restaurants s'ils veulent bien acheter mes fromages. Personne n'était emballé de la région. Donc le premier qui est venu me voir, c'est Hans Stücki de Bâle, qui a goûté les fromages et qui a dit voilà, avec Suzy bien sûr. Hein,
oui, avec Suzy. Alors Hans Stücki, c'était vraiment le très grand restaurant.
L'homme de cœur,
d'abord, bien sûr. Et puis aussi, grand chef de la région, connu internationalement.
Oui, et Suzy, son épouse, était une maîtresse de maison. Oh là là.
Maîtresse femme et maîtresse de maison. On écoute un petit peu de musique, Bernard, avant de poursuivre. We'll be right back. Alors Suzy, vous parliez de Suzy, donc l'épouse de Monsieur Stucki.
Oui,
Monsieur
Stucki,
ce grand restaurateur de la région, qui donc vous a pris vos fromages.
Oui, oui,
et
oui.
Puis qui a contribué à votre lancement.
Aussi, bien sûr, oui, oui, oui. Ensuite, j'ai eu le privilège de faire un buffet à Paris. Et là, j'ai connu un jeune homme très élégant est venu au buffet. Il a goûté, il a dit, éventuellement, ces fromages pourraient convenir à mon chef. Ça qui c'est qui votre chef? Mais c'est Alain Ducasse de Monaco. Ça, c'est pas mal, hein? Alors, il m'a dit...
Alors, Monsieur Ducasse de Monaco, il faut dire qu'il n'est pas qu'à Monaco, hein, Monsieur Ducasse. Il est un peu partout.
Il était encore à Monaco.
Ah, il était que à Monaco à l'époque. Il était à l'hôtel de Paris.
Oui, que voilà. 92, c'était qu'à Monaco. Et Gérard Margeau m'a dit, il faut un employé, je ne sais pas. Éventuellement, il en prendra. Et j'ai envoyé les premiers fromages à Monaco, en pensant à l'argent que ça coûte, au prix du transport...
Alors, comment on envoie des fromages? Ils sont comment? Ils sont emballés comment?
Par camion réfrigéré, toujours.
Par camion réfrigéré.
Toujours, oui, 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 oui.
Alors, ce sont des camions spéciaux? Comment
non,
ça
c'est
se
les
passe?
Camions qui circulent, qui prennent des fromages.
D'accord.
Ça, c'est des sociétés qui organisent ça en Suisse, en Afrique, au transport, en France, TFE, en Allemagne, Tichinger.
D'accord, donc voilà, c'est oui. pour simplement pour que nos auditeurs de Radio Cité sachent comment ça se passe, parce qu'on ne sait pas forcément comment on transporte des fromages.
Oui.
On imagine mal de les mettre à la poste avec la bonne odeur dans les paquets.
Oui, oui, oui. Et ensuite, donc...
Donc, M. Ducasse était très content.
Oui, 8 jours après, la réponse, vous êtes d'autres fromagers.
Ah,
voilà,
oui.
Donc l'aventure a commencé à Monaco, ensuite chez Harald Wolfhard, Traub et Dornbach, que j'ai connu aussi à Monaco, qui a connu mes fromages crasse à Alain Ducasse aussi. Et ensuite, le grand pas à Paris, c'était Alain Passard, que j'ai rencontré à Bordeaux. Alain Passard, le magicien des légumes. Et ensuite, Alain Passard, bien sûr, m'a fait connaître son ami Pierre Gagnère, m'a fait connaître Monsieur Sandrins, le monsieur.
Monsieur Sandrins.
On l'appelle jamais monsieur, le chef, c'est toujours monsieur.
C'est vrai.
Toujours monsieur, oui. Et ensuite, Christian Le Square, ensuite Hélène Darros, ensuite Anton, ensuite Marc Menot, ensuite Dominique Loiseau. J'ai eu le privilège de connaître tous ces chefs jusqu'aux 18 chefs 3 étoiles, que j'ai le privilège, et bien sûr aussi, j'ai eu le grand privilège de rencontrer Monsieur Rochat, qui a dit, voilà, ça il me faut aussi. Et donc, depuis qu'il a ouvert, j'ai le privilège de livrer Monsieur Rochat aussi.
Bernard, c'est formidable, c'est une immense satisfaction, j'imagine, que de se dire que vous êtes arrivé au niveau, au top niveau de votre profession, puisque les plus grands chefs ici en Europe
vous font confiance,
vous font confiance, aiment ce que vous faites, au fond, approuvent vos choix.
Oui.
C'est formidable.
Oui, parce qu'ils n'ont rien à dire, c'est toujours moi qui décide.
Ah, alors comment ça se passe? Alors, comment vous élevez ces fromages? On imagine mal quand même le fromage qui est tout petit, qui frétille et qui devient grand. Oui. Non, c'est pas quand même tout à fait comme ça.
Non, les fromages sont donc faits par les artisans. Avec chaque artisan, on a une parole donnée, il sait très bien ce que je veux. C'est lui qui les fait. Et ensuite, comme les pâtes dures, admettons, c'est plus facile à expliquer, les pâtes dures, on va les goûter quand ils sont 3 mois, on les achète, ils sont pesés.
Les pâtes dures, donc on est bien en train de parler des fromages.
Oui,
hein,
voilà. les comtés, les beauforts, les cantals, les mimolettes, les tomes de brebis, tout ça c'est acheté tout jeune pour savoir exactement de quelle ferme ça vient, de quel producteur, de quelle ferme ça vient.
Quand vous dites tout jeune, attendez, juste on revient
3 mois.
Une petite minute en arrière, juste pour expliquer. Donc tout jeune, ça veut dire lorsque l'agriculteur, le paysan, a produit ce fromage,
fruitière,
il l'a mis dans sa cave,
et vous
venez le choisir, comment
c'est
ça se passe?
Oui. On va les choisir, on va choisir les lots.
Vous les choisissez un par un petit peu,
non,
comme les gens qui
pas.
Choisissent les foies dans le Périgord, non?
Des foies, oui.
Vous les sentez, oui.
Mais il me dit aussi, mais écoute, prends ce lot, je l'ai bien réussi, prends ce lot, tu verras, il est exceptionnel. Et comme c'est des gens très honnêtes, c'est des amis, donc automatiquement, ils me disent, voilà, prends ça et ça.
C'est comme un réseau de qualité.
C'est une petite mafia comme ça.
De petits
copains, de copains, de copines, bien sûr.
Aussi. De gens de qualité
qui aiment
les mêmes choses.
Et
privilégier
bien
la
sûr,
qualité.
Aussi, pour tous ces fromages et aussi pour eux aussi, c'est mythique. Je leur dis toujours, vous êtes à Crissier, chez Monsieur Rochat. Ensuite, ils regardent le livre rouge. Ah, c'est 3 étoiles. Ensuite, oui, il doit être bon. Hein. Ensuite, quand je leur dis que vous êtes chez Monsieur Ducasse, vous êtes à Moscou, vous êtes à Hong Kong, vous êtes à Singapour. vous êtes à Jakarta, vous êtes à New York, vous êtes à Londres. Pour eux aussi, c'est bien sûr aussi une immense satisfaction quand même.
Pour le producteur de fromage qui est dans au fond dans sa campagne suisse, française, ou je ne sais pas d'où viennent vos autres fromages.
Oui.
Et puis qui tout d'un coup se dit que ces fromages voyagent comme ça à travers le monde pour réjouir les palais les plus prestigieux et les plus difficiles. C'est formidable.
Oui. Une fois, une fromagère, elle était allée à Paris. Elle avait un souci de santé et elle devait aller voir un grand spécialiste. Quand le docteur de famille dit qu'il faut aller voir un grand spécialiste à Paris, on sait très bien que ce n'est pas pour un rhume. Donc ils étaient à Paris, ils sont promenés place la Madeleine, ils sont allés à la Madeleine faire une prière et ils ont vu Lucas Carton. Elle dit, tu vois, c'est là qu'il y a mes fromages. Et il lui dit, écoute, on ne pourrait pas aller manger là-bas. Il dit, mais tu es malade. Tu as vu le prix à la porte? Combien ça coûte? Il a dit, oui, j'ai vu, mais écoute, on va chez le docteur, qu'est-ce qu'il va dire quand il va sortir? Éventuellement, on ne sait jamais, on y va. Donc ils sont allés manger.
C'est joli.
Et après, bien sûr, le plateau de fromage est arrivé. Il dit, mais, vous savez, c'est mes fromages.
C'est vrai.
C'est mes fromages. Ah, c'est vos fromages. Ah, mais Bernard me parle toujours de vous. Ah, je vais appeler monsieur. Je vais appeler monsieur.
Monsieur c'est le chef?
Oui, monsieur, c'est monsieur Sandrins.
Ah, c'est monsieur Sandrins, donc le grand chef.
Il est dans son bureau, son truc de dégustation, dans son salle de dégustation. Madame Sandrins aussi. Et tout le monde est descendu. Ah, c'est vous la fromagère? Oh là là, on est très contents avec vos fromages. Ils sont très, très bons. Vous prenez bien un petit verre de champagne. Oui, pas de problème. Et ensuite, ils ont goûté le champagne. Ensuite, ils ont dit, on demande l'addition. Elle lui fait, tu as la carte de crédit? Tu as les sous? Oui, carte de crédit aussi, alors ça peut aller. Donc elle a reçu un petit carton, la facture est arrivée, et dedans c'était marqué merci de votre visite et de vos bons fromages. Voilà,
c'est
monsieur.
Bien. Hein.
Oui, elle voulait vraiment le remercier pour les
tant
bons
fromages. Tant de bons soins, qualité.
En toute simplicité, quoi. Mm. En toute simplicité, comme ça m'arrive aussi des fois quand je vais dans les restaurants aussi. Voilà, c'était tout simple.
Oui, mais c'est beau.
Oui,
c'est beau
fabuleux.
Parce que de part et d'autre, il y a de la générosité, il y a de la qualité.
Je suis grand chef toujours. Oui. Hein, Monsieur Rochat, quand je suis là-bas, oh ben, vous venez en cuisine, vous mangez en cuisine. Manger en cuisine, c'est un privilège. Hein.
Ah oui, c'est un privilège. Hein,
c'est un privilège.
Oui, c'est un privilège. J'ai quelques amis qui m'y ont convié.
Oui,
c'est un grand privilège.
Et monsieur, on a fait les 25 ans de mon fils chez Monsieur Rochat. On est allés tous à la cuisine. Prendre l'apéritif, bien sûr. Après, on est allés dans le salon quand même. On était à 6. Mais après, vous allez venir, et vous venez plus tôt. Monsieur Villeneuve a dit, vous venez plus tôt. Hein. Monsieur Rochat vous attend déjà à 11h30 pour l'apéritif.
C'est bien.
On a pris l'apéritif en cuisine, avec Monsieur Rochat qui ouvrait pas mal de vin déjà. J'ai dit, oh là, on avait un chauffeur, la belle-fille. Donc c'est bien.
Alors la belle-fille, elle était privée de bon vin.
Oui, elle s'est sacrifiée.
Elle s'est sacrifiée pour faire un chauffeur.
Ben, oui.
Sobre.
Voilà, c'est ça.
C'est très bien.
Oui. Et ensuite, à 95, encore un grand pas. On savait que notre fils allait continuer cette affaire. C'est pour ça donc qu'on a construit ces nouvelles caves à vin, nouvelles caves à fromage, pour lui donner justement un outil de travail digne du troisième millénaire. En 98, on les a donc inaugurées. En 99, on est posé dans les malades. Et en 2000, donc, elle est partie. Et donc, Jean-François est là depuis 98. Il a appris donc le métier de fromager.
Alors, comment vous avez élevé votre fils pour qu'il reprenne comme ça votre succession?
Écoutez, on ne lui a jamais rien dit. Il a toujours dit, je deviens aussi fromager, même quand il avait l'âge un peu comme tout le monde, hein, comme nous on avait aussi.
Il a bien eu une époque quand même d'un peu de révolte contre papa, non? Jamais.
12, 13 ans, une fois, il a dit, tu sais, papa et maman, j'en ai marre avec vous. On va en vacances, 4 jours, 4 jours de fromagerie. On va en hiver, on va à Verbier en vacances.
4 jours de fromagerie.
On va voir les fromagers de Bagne. Et moi, je veux faire. Là, on l'a laissé faire du ski. Mais autrement, c'était toujours le fromage. Et tous les jours, c'était comme ça. Mais il a toujours dit, mais je continuerai quand même.
C'est une passion, le fromage.
Oui, je pense. Oui. Il a dit, pourquoi faire autre chose quand on a un outil de travail tellement exceptionnel sous la main. Donc, il a appris le métier de fromager à l'école. Mais au bout de 15 jours d'école, il m'a téléphoné et dit, papa, je ne reste pas. Dans cette école, on parle uniquement de productivité, de pasteurisation, d'ionisation, de choses comme ça que je n'aurais jamais besoin, et de rentabilité. Je veux quelque chose d'autre, je veux aller travailler en alternance. Donc 6 semaines de fromagerie et 15 jours d'école. C'est ce qu'il a fait pendant 2 ans.
Il a fait ça à quel endroit?
À Métabier, dans le Jura. Donc il a fait des comtés, des Morbiers, des Monts d'Or. Et après, donc, ces 15 jours d'école, quand même, qui lui ont quand même servi. Il ne faut pas dire que l'école ne sert à rien. Il a appris la technique, la fabrication du fromage, ce qui est justement important.
On écoute un peu de musique ?
Oui, bien sûr.
Sur Radio Cité Genève 92.2, nous sommes dans les assiettes d'or. C'est avec Bernard Charles Anthony que nous parlons. C'est un éleveur de fromage, et c'est un éleveur de fromage tout à fait exceptionnel, puisqu'il fournit le monde entier, les grands chefs, les plus grands chefs, les plus grands restaurants. Et nous parlons aujourd'hui autour de sa table, dans sa cave, en Alsace. Et nous sommes autour de cette table pour écouter qu'il va donc avoir un successeur et que la belle aventure ne va pas s'arrêter.
On va faire, comme dit Jean-François une fois, il a été interviewé aussi. Il a dit le premier millénaire, il y avait les comtes de Ferrette. Le deuxième millénaire, il y avait la famille des von Habsbourg. Et le troisième millénaire, il veut créer la dynastie des fromagers, Anthony.
Mais c'est magnifique, voilà, ça. Oui. Voilà une belle idée. Alors, ça va se passer bien sûr ici, dans votre maison de famille. Ça continue comme ça, dans bien votre sûr, maison de famille. Alors, qu'est-ce qu'il fait votre fils, lui, sa partie à lui, qu'est-ce que c'est aujourd'hui?
Il fait beaucoup. C'est vrai que moi, je fais beaucoup de choses à l'étranger. Lui, il s'occupe entièrement donc des fromages maintenant. Il fait les marchés. Il fait les marchés, prépare les commandes. Donc, ses journées sont toujours assez remplies de 8h du matin. 6 heures du matin, pratiquement, jusqu'à 8 heures du soir.
Alors, faire les marchés, ça veut dire on prend les fromages, on les met sur des clés, on les met dans un camion.
On a un camion magasin, on va faire les marchés.
Et puis, on dresse un étal dans un marché et on vend ces fromages.
Oui,
c'est ça que
mais
ça veut dire.
Le fromage reste dans le camion.
Le fromage reste dans le camion, d'accord. Le camion, donc, il n'y a pas de manipulation.
Non. C'est un camion magasin. Et on garde ce camion parce qu'on a commencé comme ça. Et il faut toujours savoir, Monseigneur de Dapsou m'a appris ça, il faut toujours savoir d'où on vient pour savoir où on va. Donc on a gardé cette tradition de faire les marchés malgré que, sincèrement, on n'en aurait pas besoin. Mais on a toujours tenu à continuer comme ça.
Ça vous garde au contact des vrais gens, de la clientèle ?
Oui, de toute notre clientèle qui nous a fait confiance au départ, des enfants qui viennent, des premières clientes qui viennent. Donc ça nous fait... C'est un cycle comme ça qui tourne, c'est une roue qui tourne, quoi.
C'est joli, les marchés.
Oui, c'est très joli. Oui.
C'est une jolie ambiance.
Oui, c'est très, très bien. Et moi, je fais donc beaucoup de buffets extérieurs. Ici aussi, on fait beaucoup d'événements. On a eu le privilège l'année dernière de recevoir son Altesse impériale Otto de Habsbourg avec le prince Albert.
De Monaco ?
De Monaco, oui, qui est venu à Ferrette, à la ville de Ferrette, qui est venu dîner ici. On a reçu beaucoup d'artistes déjà, les Sœurs Labec, Gilbert Montagnier, Pierre Perret. On reçoit beaucoup de gens donc, du monde entier qui viennent ici.
Alors ça aussi, c'est une activité, parce que vous leur servez à dîner. Comment
à
vous
dîner, oui, c'est une cérémonie des fromages. On goûte donc tous les fromages comme il faut les goûter. Et je propose aussi les mains qui vont avec.
Ça, c'est
comme votre mari a fait.
C'est un souvenir inoubliable, Bernard.
Voilà,
ça.
Oui, je pense. Oui, que
c'est
tout
comme
monde...
une intronisation, au fond.
Voilà, c'est ça, oui.
Vous n'avez jamais pensé à donner un jour un nom à la fête que vous organisez?
Non, mais
avoir
on va déjà
demander.
Avoir
un grand ruban, avoir une sorte de chane, comme disent les Suisses.
Oui, on a déjà, j'ai déjà pensé, mais il faut toujours s'améliorer, quoi. Rien n'est parfait, la perfection n'est pas de ce monde. Hein, donc on pense qu'il faut encore essayer de changer, de mieux faire, de faire différemment. Il ne faut jamais s'endormir.
Ah non, c'est vrai, mais vous n'avez pas l'air de vous endormir du tout.
Non.
Vous avez l'œil très vif.
Oui, je fais beaucoup de choses à Vienne, bien sûr aussi, il y a beaucoup à Genève, bien sûr aussi, il y a des maisons fabuleuses à Genève, on fait beaucoup de choses à Paris, à Londres un peu moins ces derniers temps, bien sûr, mais il y a d'autres choses, d'autres activités de nouveau.
Et alors, vous parliez tout à l'heure des fromages que vous envoyez dans le monde entier.
Mm-hmm.
Ça se passe comment, ça aussi? Alors là, il n'y a pas de camion réfrigéré, ce sont des
avions. Des avions, oui. Donc tous les fromages qui vont en Asie, à Hong Kong, Singapour, Shanghai, tout ça, ça part à Paris, ça va à Rungis, et de Rungis, il y a des avions spéciaux qui partent sur ces pays.
Et là, c'est un petit pincement au cœur de voir partir vos bébés comme ça, à travers la Terre.
Non, c'est un privilège de pouvoir les envoyer dans les plus belles maisons. Donc à Hong Kong, on est au Four Seasons, on est au Petrus, on est au Peninsula. On est au Landmark, à Hong Kong, c'est ça. À Singapour, on est au Raffles Hotel.
Mais comment ça vient tout ça? Parce que ça fait rêver, Bernard, de se dire que vous êtes parti d'ici, de cette jolie maison alsacienne, dans ce village qui est quand même assez reculé. On a eu du mal à vous trouver, et malgré vos bonnes explications. Et c'est vrai que tout d'un coup, de penser que vos fromages partent d'ici pour aller dans le monde entier vers les plus grandes maisons, c'est quand même incroyable. C'est belle aventure.
Toujours un réseau. Donc tous ces chefs qui sont à Hong Kong, c'est des anciens, soit de Ducasse, soit de Alain Passard, soit de Monsieur Sandrin, soit de Marc Menot. Et chaque fois quand ils vont dans le monde, ils m'appellent: Bernard, je suis à Dubaï, je suis à Hong Kong, il me faut des fromages. C'est tout ce réseau de départ qui m'a permis de faire ce qu'on fait maintenant aussi. Et aussi, j'ai aussi eu beaucoup de reportages, bien sûr, donc de radio, j'ai fait beaucoup de télévision aussi, beaucoup de radio, beaucoup de magazines. Et tous ces magazines, tout ça, ça a aussi permis que des gens, dans des beaux magazines bien sûr, des gens de qualité le lisent, disent voilà, tiens, pourquoi pas. Et comme ça, donc, ça s'est aussi développé aussi. Donc je dois beaucoup de choses à beaucoup de personnes, quoi.
Mais vous devez d'abord et avant tout à votre talent.
Oui, oui, ça aussi, bien sûr. J'ai aussi le privilège, comme a dit Monsieur le Président de la République aussi, donc le 29 octobre, il a dit aussi, c'est grâce aussi au travail que vous faites pour notre économie, bien sûr, d'envoyer tous ces fromages dans le monde entier. Cette distinction, bien sûr, je la dédie aussi à mon épouse, à mes enfants, à tous mes clientes et clients, à tous mes fromagers, à tous mes vignerons, à tous les gens qui m'ont aidé, qui m'ont supporté toutes ces années aussi.
C'est dit avec un merveilleux sourire. Donc, répétons-le, vous avez été honoré de l'Ordre du Mérite, ce qui est une très belle décoration en France, très importante, et qui marque un grand succès, une grande réussite. C'est vraiment émouvant. J'imagine que c'est très émouvant de
recevoir cette décoration.
C'est très émouvant. Hein,
j'ai dit le discours, mais j'ai tellement appris avant, mais... Sur le coup, mais après ça allait, j'ai plus regardé personne, et après ça allait bien. Monsieur le ministre a dit, Monsieur Anthony, vous faites mieux que moi.
Ah, c'est gentil.
Mais il est tellement gentil, Monsieur le ministre Barnier, c'est un homme d'exception.
C'est le ministre de l'Agriculture en France, n'est-ce pas?
Oui, c'est un monsieur d'exception, qui est un homme de terrain aussi.
Un grand et bel homme.
Oui, qui a beaucoup, et qui fait beaucoup de choses pour l'agriculture.
C'est vrai. On écoute un peu de musique, Bernard.
Nous sommes sur Radio Cité Genève 92.2. Nous sommes dans les assiettes d'or
avec Bernard Charles Anthony, éleveur de fromage. C'est un très beau mot pour dire que Bernard élève des fromages, c'est-à-dire qu'il va les choisir chez des producteurs, il les regarde grandir, il les regarde prospérer. Et puis après ça, les ayant choisis, les ayant chéris, il les envoie un peu dans le monde entier, dans les plus grandes destinations, chez les plus grands chefs, dans les plus grandes maisons. C'est assez, je veux dire, c'est assez prestigieux. Quel effet ça fait quand on regarde comme ça une vie, Bernard, de se dire d'être parti au fond de la petite épicerie de campagne avec les soutiens-gorge et puis les produits de base. Puis tout d'un coup de se dire qu'on est l'un des grands fournisseurs de l'un des mets les meilleurs et les plus raffinés de la planète. C'est quand même un beau parcours.
Oui, c'est un très beau parcours. Comme j'ai dit tout à l'heure, que je dois bien sûr à beaucoup de travail, bien sûr aussi, mais aussi à une épouse qui était d'accord de mener cette vie un peu pas toujours facile. Et aussi maintenant, la très grande satisfaction, bien sûr, que Jean-François est tout aussi passionné. D'ailleurs, il y a des chefs qui disent « Toi, tu es bon, mais ton fils devient être encore meilleur. »
C'est vrai.
Oui, c'est la plus belle satisfaction qu'on peut avoir.
Pour un papa, c'est magique,
oui,
ça.
Oui, oui. Le contraire serait embêtant.
Ah oui, 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 non, ça ne serait pas drôle du tout.
Oui. On a un petit-fils aussi, on lui a déjà donné du vin.
Il s'appelle comment le petit-fils ?
Baptiste.
Baptiste.
Il a déjà bu le même
Pinot Gris que nous. Il a quel âge, Baptiste ?
12 mois.
Il a 12 mois, il a déjà dû... Oui, il faut me donner un petit peu de vin.
Et du fromage aussi.
Je sais qu'on va horrifier les auditeurs de Radio Cité à Genève. Mais en France, les enfants ont un petit peu de champagne sur la langue, un petit peu de vin sur le bout de la langue. Et puis, on leur donne le goût de ça, parce que c'est tellement bon, c'est tellement important d'apprécier les bonnes choses. Ça fait des gens heureux.
Il a bien aimé.
Il a bien aimé. Ben voilà, il va chasser de race, comme nous disons.
Voilà,
alors, un jour, ça sera le petit-fils après le fils.
Oui, on l'espère. Le livre d'or, c'est déjà écrit. Nous espérons que nos enfants viennent être une fois chez Baptiste Anthony, goûter les fromages.
Ah, ben voilà. Voilà. La vie continue comme
oui,
ça.
Bien sûr, oui.
C'est une jolie façon de voir la vie, de voir le monde, de se dire que ça continue.
C'est Pierre qui m'a appris tout ça.
Pierre c'est Androuet.
Oui, Pierre, c'est un grand philosophe, bien sûr, qui m'a appris au fil des années, quand lui vieillissait, moi aussi, bien sûr, mais quand beaucoup plus jeune. Il m'a appris un peu cette philosophie, un peu. C'est un esthète aussi. Hein. Personne ne peut se comparer à lui. C'était une sommité dans le fromage, c'était aussi une sommité dans la musique, c'était une sommité dans l'architecture, c'était une sommité dans tout ce qui est gastronomie, bien sûr, aussi. Hein.
Donc, vous parlez de M. Androuet, qui était donc le célèbre fromager de Paris.
D'Amsterdam.
Et d'Amsterdam. Et puis, dont vous dites qu'il était en même temps musicien.
Oui, grand musicien.
Architecte. On ne le sait pas forcément, tout ça.
Oui, architecte aussi. Il était coureur automobile pendant 2 ans. Il voulait se révolter contre son père. Il est devenu coureur automobile.
Et vous-même, est-ce que vous avez des passions autres que le fromage, Bernard ?
On me demande ça souvent, je ne sais pas quoi dire. Non.
Non.
À la musique, si, la musique.
La musique,
les grands opéras.
Oui.
Je vais souvent dans les grands opéras, dans les grands concerts, des Sœurs Labec. Je suis un ami aussi de Simeon Pishkov, le grand chef d'orchestre, de Sœur Redley aussi. J'ai eu le privilège de côtoyer plusieurs fois déjà M. Berenbaum, un homme d'exception. Mais mes grands amis, c'est les Sœurs Labec, les pianistes qui jouent à quatre mains. Les deux, eux, c'est les concertistes préférés. C'est aussi deux femmes, bien sûr, aussi. Hein.
Ah, voilà. Et là, pour nos auditrices, l'œil de Bernard brille.
Voilà.
Bernard, si je vous disais, qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous me répondriez ? Votre prochain souhait ?
Mon prochain souhait, que Jean-François ait autant de succès que moi j'ai, qu'il fait toujours aussi bien, et aussi bien sûr que Jean-François continue comme nous on a commencé, que Patrice continue aussi après.
C'est donc le fils, le petit-fils,
voilà,
la lignée.
Et moi encore 20 ans.
Et vous toujours.
Voilà.
Et vous toujours.
Encore 20 ans dans le programme.
Pierre, encore plus. C'est pas beaucoup 20 ans.
85 ans, donc là, je ferai un peu doucement, 85 ans quand
alors
même.
Alors on verra. Hein. En tout cas, Bernard, c'était un très joli moment, cette discussion
merci
avec vous. C'est un moment raffiné, c'est un moment de beauté, de calme dans votre belle cave ici, au fin fond de l'Alsace. Savoir aussi que vous avez démarré, au fond, encore une fois, avec ce camion ambulant de campagne, et puis que vous avez fait ce parcours exceptionnel, et qu'aujourd'hui, vous êtes le fournisseur des plus grands sur la planète, avec vos fromages tout à fait exceptionnels. Mmh. C'est quand même merveilleux de se dire qu'on peut réussir à force de travail.
Oui.
À force
beaucoup de travail. Oui.
Beaucoup de travail. Beaucoup de travail et beaucoup de conviction et beaucoup de passion.
Et jamais se poser de questions. Toujours aller, Pierre m'a toujours dit, même si un jour ça ne va pas, il faut quand même aller de l'avant. Même si un jour tu vois, tu dis, oh flûte alors. Si le banquier te téléphonait le matin, toutes ces choses-là. Ça, Pierre m'a dit, moi c'était pareil aussi, mon père aussi, ben, il faut continuer, il ne faut pas... Regardez derrière, il faut avancer. Quoi. Et de toute façon, il ne faut pas jamais demander personne, il faut faire d'après ton choix. Avec choix de, vous deux, vous devez avancer dans ce sens et avoir confiance l'un dans l'autre, bien sûr.
Donc, avoir confiance, avancer dans la vie, ne pas regarder derrière, avoir confiance. C'est un très beau message que vous avez fait aujourd'hui, Bernard. Merci. On vous en remercie. Est tout particulièrement important dans l'époque d'aujourd'hui qui doute tellement.
Ouais.
Alors, merci pour ce beau message.
Merci.
Et puis, nous avons passé chez vous un moment rare et merveilleux. Merci aussi pour ce bon vin que nous avons goûté à vos côtés. Et à bientôt.
Merci, Viviane. Merci.
Au revoir, Bernard.
Au plaisir de se revoir.